J'ai toujours frappé parce que quand on lit les béatitudes, les heureux, 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 comme on a fait ce matin, et puis qu'on en arrive à la dernière, qui nous dit « Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. » C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Je n'ai pas l'impression que ça vous fait, mais on voit aujourd'hui toutes sortes d'informations qui nous disent qu'il y a énormément de chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont persécutés. Christian m'a envoyé un mail ces jours-ci en demandant donc on signe une pétition pour que le futur président de la Commission européenne puisse intervenir. C'est vrai que on se pose des questions et on se dit mais comment est-ce qu'on peut réagir dans des situations comme ça, eux sur place et nous dans un environnement privilégié comme le nôtre aujourd'hui. Alors Jésus déjà dans Matthieu au chapitre 10 au verset, tout un passage ici où il parle des persécutions à venir et il invite là les gens à faire confiance et en particulier au verset 18, on va prendre « On vous fera comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi » pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. C'est quand même formidable. Dans les situations inextricables, finalement, les situations tragiques, Jésus nous dit de ne pas être et dit à toutes ces personnes, tous ces chrétiens-là, ne soyez pas inquiets. Si vous avez à comparaître devant les tribunaux, si vous êtes accusé injustement, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça, ce sont des promesses extraordinaires. Des promesses extraordinaires. Et puis, il y a autre chose. Jésus dit autre chose au chapitre 24. Je vais commencer au verset 15. Je lis dans la français courant, je ne vous ai pas dit. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison et un jour de sabbat, car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareille. Et si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Vous êtes comme moi, vous entendez les informations et on voit par exemple en Irak aujourd'hui tous ces gens qui fuient et qui, j'allais dire, mettent en pratique le conseil de Jésus. Fuir. Et pourtant, ça serait si facile de ne pas fuir, par exemple en Irak, en Syrie, ça serait très facile. C'est que l'État islamique propose des choses toutes bêtes et toutes simples pour ne pas être embêté. Il suffit de répéter devant un imam « Allah est seul Dieu et Mohammed est son prophète », point. Je ne sais pas si vous imaginez la tentation qu'on peut éprouver. Ça serait si simple. Je lisais un témoignage d'un chrétien là-bas qui le disait. J'ai été tenté. Mais j'ai refusé. Et j'ai préféré fuir. Alors vous avez suivi tous ces gens qui s'enfuient, ces témoignages, effectivement, comme c'est dit dans le texte ici, de ces femmes enceintes qui accouchent dans des conditions terribles. La mauvaise saison, c'est une saison, il fait terriblement chaud. Et Jésus a donné ce conseil à son époque, il disait, fuyez et ne restez pas. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce que nos frères et sœurs font dans ces pays, dans ces situations absolument incroyable, impensable. Alors, Christian a lu tout à l'heure cette lettre qui vient du Népal. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand j'entends ça, parce que je me dis, mais attends, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? Encore, j'ai reçu son courriel. J'ai signé, hein. Voilà. Et puis, je soutiens Porte Ouverte. Vous connaissez, je pense, Porte Ouverte. Et puis j'écris des lettres aussi à la CAT. Puis je me dis, mais c'est quoi ça? C'est peu, c'est pas grand-chose. Puis chaque jour, ceux qui vivent avec moi doivent dire, ils se répètent tout le temps, mais chaque jour, que je sois à table avant le repas ou quand on partage la parole ensemble, je prie pour ces gens-là. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi moi je suis si privilégié? Je suis si libre. Je vis dans l'abondance. Et pourquoi eux là-bas? Et ça me pose problème. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors ça, on dit souvent, quand on se pose ces questions-là, nous, chrétiens, on se dit, la parole de Dieu peut-être va nous donner des pistes, des directives. Alors dernièrement, on a étudié le livre de Néhémie. Et Néhémie a été placé, c'est pas tout à fait la même situation, mais dans une situation qui est semblable, on va dire. Néhémie, il est bien. Il est chanson du roi, position, voilà, certainement avec tout un service autour de lui, etc. Mais Néhémie, lui, voilà qu'il reçoit des nouvelles. On n'a pas Internet à l'époque, donc il faut le temps que ça vienne, les nouvelles. Il reçoit des nouvelles de ses frères et sœurs qui sont revenus à Jérusalem, qui sont partis de la Mésopotamie, ils étaient en exil, ils sont repartis à Jérusalem, et Néhémie apprend par son frère, Hanani, que les gens là-bas qui sont revenus de l'exil sont dans des situations difficiles, terribles. Et Néhémie va avoir une réaction qui pourrait peut-être nous inspirer. Alors on va prendre, c'est Néhémie au chapitre 1. Qu'est-ce qu'il fait, Néhémie, quand il apprend cette nouvelle-là? Et finalement, c'est une sorte de réponse à ma question que je me pose à moi. Je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire? On va lire ce texte, dans chapitre 1, au verset 4. « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Durant plusieurs jours, je restai dans l'affliction en jeûnant. Et puis, je me mis à prier le Dieu du ciel. Dieu grand et redoutable, Dieu du ciel, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Alors, tourne ton regard vers moi. Sois attentif. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je te prie pour nous, tes serviteurs. Je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Oui, moi-même et mes ancêtres, nous avons péché. Nous t'avons offensé en désobéissant aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous avais communiquées par ton serviteur Moïse. Souviens-toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part. Si vous ne me restez pas fidèle, je vous disperserai parmi les nations étrangères. Mais si par la suite vous revenez à moi et prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher. Je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence, même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adressent aussi tous les autres fidèles qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permets que le roi y réponde avec bienveillance. » Là, la prière, mais sa première réaction finalement, c'est pas de dire qu'est-ce que je peux faire. Sa première réaction, c'est, on va dire, la compassion, c'est-à-dire qu'il souffre avec ses frères. On nous dit, s'il pleure, il va jeûner, il va être resté, il dit rester dans l'affliction. Ça veut dire, j'entends d'une oreille, et puis 5 minutes après, j'ai oublié. Qui est mon cas aussi, hein. Je ne suis pas pour vous. Mais bon. Oui, ici, il reste dans l'affliction. Il porte les fardeaux de ses frères et sœurs. Et puis, après, il dit, je me mets à prier. Je me mets à prier. Parce que Néhémie, je pense qu'il est un petit peu comme nous, comme moi. Est-ce que vous ne pensez pas que Néhémie a dû dire, mais pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, comme moi, des pourquoi? Mais pourquoi? Et Néhémie, lui, en a l'impression qu'il ne se pose pas ces pourquoi. Il s'adresse directement au Seigneur. Première chose qu'il fait, il rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Ça, il dit, tu maintiens ton alliance. Dans une position d'adoration, tu maintiens ton alliance. Sous-entendu, tu n'es pas absent de toutes ces situations-là. Tu es présent. Et tout ça, tu le sais. Tu restes fidèle. Il dit à Dieu, tu restes fidèle. C'est extraordinaire. Ce rappel de Néhémie sur la fidélité de Dieu, sur la confiance qu'on peut avoir au Seigneur. Et puis, après cette prière, cette adoration finalement, cette confiance renouvelée, il passe à la demande. C'est vrai que nous avons souvent tendance, moi j'ai souvent tendance, je suis un bon quémandeur, d'accord? Et j'oublie souvent de... Ouais, de reconnaître Dieu pour ce qu'il est et de le louer, de l'adorer. Après ce rappel de la fidélité de Dieu, eh bien, il s'adresse à Dieu. Et il lui dit, tourne ton regard vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t'adresse. Voilà, il invoque la présence de Dieu. Et il lui demande d'écouter sa prière. Tout de suite après, Néhémie doit se poser la question, est-ce que je suis digne de m'adresser au Seigneur ? Que je suis digne de m'adresser au Seigneur. Et il dit, je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Oui, moi-même et mes ancêtres, nous avons péché, nous t'avons offensé en te désobéissant. Vous voyez, il s'adresse à Dieu, mais tout de suite dans cette position d'humilité. Et il demande à Dieu de lui pardonner. Et vous avez vu comment il dit moi-même et nous. Toujours dans cette position de confiance. Hein? Et alors il va rappeler au Seigneur quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit au Seigneur, si vous ne restez pas fidèle, je vous disperserai, mais si vous revenez à moi et prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher. Je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai lu un témoignage d'un chrétien d'Irak qui avait quitté sa région d'Erbil et qui était à Karakoch. Je pense que vous connaissez, on en parle assez. Il reprenait presque là, presque ça. Et il disait, je suis persuadé que je reviendrai à Erbil. Je l'ai demandé au Seigneur et je sais qu'il m'écoute, je sais que je reviendrai parce que ma place elle est là, au milieu des incroyants, c'est ma place elle est là. Cette confiance. Et Néhémie a cette confiance dans la grâce de Dieu. Il sait que même s'il n'est pas parfait, Dieu l'entend. Et il se confie à la grâce de Dieu. Ça, c'est aussi très important. Alors pour nous, c'est facile à dire, mais quand on est dans des situations comme ça, hein, quand on a entendu ce que disait tout à l'heure Christian, nous, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir trop chaud, de manquer d'eau, de manquer de nourriture, etc. Et puis, de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. Et alors, il dit ensuite, « Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple, tu nous as déjà délivrés, alors je t'en supplie, sois attentif à notre prière et fais réussir les démarches que je vais entreprendre. » C'est toujours bon de se rappeler lorsqu'on s'adresse à Dieu, c'est toujours bon de se rappeler que nous pouvons nous adresser à Dieu notre Père parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui. Jésus-Christ a payé pour nous et nous sommes les enfants de Dieu et nous pouvons nous adresser à Dieu comme à notre Père. Et nous pouvons lui demander de faire réussir ce que nous allons entreprendre. Et Néhémie, il va demander donc au Seigneur de faire réussir les démarches qu'il pense entreprendre. Je pense souvent à ça. Oui, je prie. Hein. Je prie. Et sous-entendu, hein, excusez-moi, c'est un petit peu familier, hein, sous-entendu, je dis à Dieu, débrouille-toi. Je t'ai demandé, je compte sur toi, alors vas-y. D'accord ? Souvent, je suis mal à l'aise, hein, parce que je suis comme ça quelquefois, mais souvent, j'attends tout de Dieu. Que fait Néhémie, lui ? Il a déjà décidé de faire des démarches auprès du roi. Je sais qu'à l'époque, ce n'est pas de la rigolade, faire une démarche auprès du roi. Vous connaissez le récit d'Esther aussi, qui est en gros de la même époque. Hein. S'adresser au roi, c'est risquer sa vie. Parce que c'est le roi qui pose les questions et on y répond. Hein. Voilà. Néhémie, il a demandé à Dieu, mais il a déjà une idée de ce qu'il va pouvoir faire concrètement. Alors bien sûr, tout à l'heure j'entendais cette lettre du Népal, qu'est-ce que je peux faire? Alors Christian a ajouté après, parler de la caisse de secours par exemple, hein, ou de choses comme ça. Voilà. Je crois qu'il faut, comme à l'exemple de Néhémie, hein, lorsque nous prions le Seigneur pour quelque chose de précis, je crois qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on peut mettre en œuvre pour agir. Hein, pour agir. Alors vous connaissez la suite, il y a une suite qui est intéressante. Hein. Néhémie, donc, il va attendre 5 mois. Hein. Non, je pense que tout ce temps-là, il continue à prier hein, et à intercéder. Donc son frère est arrivé vers le mois de mars-avril, je crois que j'avais noté, novembre-décembre, pardon. Et puis, un jour, alors qu'il sert le vin qu'il a goûté auparavant pour voir s'il n'était pas empoisonné, donc Néhémie, il n'en peut plus. Jusque-là, il a fait bonne figure devant le roi. Il a fait ce qu'il devait faire, son métier, des chansons avec le sourire. Et voilà, ce jour-là, il n'en peut plus. Et il se présente devant le roi, il présente devant le roi un visage triste. Et le roi qui est habitué à le voir avec un visage rayonnant, ce qui est son métier, Néhémie, hein. Voilà, le roi pose la question. Néhémie a su attendre, et puis Dieu a permis l'occasion, d'agir. Et le roi lui demande, mais c'est dans les versets qui suivent, hein, on nous dit ici, « Pendant que le roi était à table, je pris du vin, je lui en versais sur chapitre 2, j'étais triste, ce qui ne m'était jamais arrivé en sa présence. » Et il avait intérêt. Alors le roi m'interrogea, « Pourquoi cet air triste ? T'es pourtant pas malade, dit le roi. » C'est un chagrin qui te ronge. Voilà la porte ouverte pour parler, demander. Et le roi lui dit, mais tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu désires obtenir? Et alors Néhémie va répondre. Alors il n'a pas beaucoup de temps, Néhémie, hein, pour répondre. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'appelle ça la prière minute. Vous savez, la prière qui n'est même pas formulée, mais c'est le regard qu'on porte vers Dieu avant de répondre. Parce que quand le roi lui a parlé, il a fallu qu'il réponde tout de suite. Hein. Mais entre-temps, le texte nous dit, aussitôt que le roi lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel. Puis je répondis au roi. Ça aussi, ça me parle. Je me dis souvent, on saisit les occasions, c'est vrai, et on se lance. C'est bien, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de l'aide et du secours de Dieu et de la grâce de Dieu pour agir, pour dire, pour faire quelque chose? Et Néhémie prend ce temps de s'adresser à Dieu. rapidement, comme ça, dans un éclair, il s'adresse à Dieu. Je pense dans son esprit, c'était un merci au Seigneur qui donnait cette occasion, et puis ensuite, merci, ensuite, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi les paroles. Alors on a lu tout à l'heure dans Matthieu, hein, vous vous souvenez de la lecture là, Néhémie, lorsqu'il parle, c'est le Seigneur qui parle par sa bouche. Il s'est adressé à lui, et le Seigneur, selon ses promesses, parle. Et il va agir. Et il va agir. Donc, il va demander donc, une escorte, il va aller lui-même là-bas à Jérusalem pour voir ses frères organiser les choses, etc. Alors, pour nous, nous sommes tous, ce matin, nous sommes tous des Néhémie. Nous avons entendu les cris de nos frères et sœurs. Nous avons entendu ça. Et maintenant, nous avons et nous aurons à nous présenter devant Dieu comme Néhémie. Ça va peut-être prendre du temps. Lui, c'était 4 ou 5 mois où il a rien vu. Il n'a pas vu de solution, pas vu d'issue. Et pendant ce temps, il est resté dans cette attitude de prière vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire aussi que lorsque nous intercédons pour nos frères et sœurs chrétiens en Irak, en Syrie et dans des catastrophes comme au Népal par exemple, c'est pas la petite prière comme ça, puis après on dit j'ai prié, le Seigneur a qu'à se débrouiller, hein. Non, c'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est que l'apôtre Paul dit pleurez avec ceux qui pleurent, portez les fardeaux les uns des autres. Et ces fardeaux, nous pouvons les porter dans la prière. Et soit c'est important. Et puis s'il y a l'occasion d'agir, eh bien, ne nous précipitons pas, mais tournons-nous vers Dieu. Et dis, Seigneur, j'ai une ouverture. J'ai une occasion. Et le Seigneur, comme pour Néhémie, va nous aider, nous donner ce dont nous avons besoin. Alors qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Je crois qu'en... N'oubliez pas, quand on pose la question « que faire ?», je crois que cet exemple de Néhémie, il est riche d'enseignements. Je vous invite beaucoup à relire, à le relire, à vous en imprégner et à chaque jour être persévérant dans la prière. Et aussi à avoir cette tristesse de voir nos frères et sœurs souffrir de telle manière. Et de voir le courage de nos frères et sœurs qui acceptent, voilà, d'être fidèles à leurs engagements par rapport au Seigneur. Alors qu'ils pourraient, comme je disais au début, alors qu'ils pourraient facilement être tranquilles. Et ils ont une deuxième solution qu'on leur propose aussi, c'est de payer l'impôt religieux. Hein. Tout facile. Mais eux choisissent de rester fidèles. Et ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin que nous prions pour eux avec beaucoup de persévérance. Puis nous, ce matin, nous sommes là ensemble et nous sommes appelés à prier aussi, nous l'avons déjà fait tout à l'heure. C'est toujours compliqué de prier, tout le monde prie, hein. Mais nous avons la possibilité, avec un texte du psaume 38, je vais y arriver. Psaume 38, je vais vous lire donc ces quelques versets, c'est dans les derniers versets du psaume 38, ce sera notre prière communautaire. Je vais simplement vous demander, après que j'aurai lu et que moi personnellement j'aurai dit Amen, c'est-à-dire c'est ce que je désire Seigneur par-dessus tout, je demanderai après mon Amen tous de dire aussi Amen à haute voix. Seigneur, leurs ennemis sont bien vivants et puissants. Ils sont nombreux à leur en vouloir sans raison. Seigneur, ne les abandonne pas. Mon Dieu, ne reste pas loin d'eux. Viens vite à leur secours, Seigneur, mon Sauveur. Amen.
Amen. Amen.